Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. À tout seigneur de la bande dessinée, tout honneur. Pour une série de 5 émissions, Les Nuits Magnétiques, en 1980, s'amusèrent à psychanalyser les héros de papier. Donc, Tintin ne pouvait qu'apparaître en premier, ce Tintin qui n'est pas vraiment un enfant, qui n'est pas vraiment un adulte. Jean-Michel Charlier, Jacques Martin, Maurice, Jacques Tardy entraient dans le jeu et se penchaient, en compagnie d'autres admirateurs de Tintin, pas tous admirateurs, certains intervenants disaient n'avoir jamais aimé Tintin, se penchaient sur la personnalité si simple et donc si complexe du petit reporter. Ah, les fessées données à Abdallah, ah, son amitié pour Chang. Tintin, un personnage libre grâce à Milou. De l'Édipe dans les bulles, Tintin ou l'invention du père, par Jean-Marc Terrasse dans Les Nuits Magnétiques d'Alain Weinstein, première diffusion sur France Culture le 8 décembre 1980.
Bonsoir. Les enfants, cette semaine, sont priés de lire Proust ou d'aller se coucher de bonne heure. Il va être question, en effet, de sujets sérieux avec Jean-Marc Terrasse et Bernard Treton. De sujets sérieux, puisque ce sont 5 personnages bien connus de la bande dessinée, 5 personnages qui cachent bien leur jeu humain, trop humain. Tintin, Alix, Spirou, Lucky Luke, Astérix.
5 personnages, Jean-Marc Terrasse, que vous allez mettre sur un divan.
C'est ça, sujet sérieux, effectivement, et même des sujets qui manquent beaucoup d'innocence. Et on va coucher Tintin sur le divan ce soir. Demain, on y couchera Spirou avec Fantasio, parce qu'il est difficile de le laisser tout seul. Ensuite, on se penchera sur Alix, qui a beaucoup de choses à nous raconter. Lucky Luke, qui est, lui, terriblement seul. Et le dernier soir, on est en France, Astérix.
Vous ne ferez pas un sort à Milou ?
Milou vit avec Tintin d'une manière... Vous saurez ce soir, écoutez.
Mais le psychanalyste, c'est vous ou vous n'êtes qu'un intermédiaire de plus dans cette histoire ?
Ah, effectivement, des psychanalystes se sont penchés sur nos petites bulles pour y déceler et y chercher tous les Oedipes de la Terre. Mais nous avons aussi demandé à des enfants et à des non-spécialistes leur point de vue. Parce qu'après tout, la bande dessinée, c'est peut-être aussi un plaisir.
Mais psychanalyser les héros de bande dessinée, est-ce que ce n'est pas employer la mitrailleuse lourde pour chasser le lapin ?
Absolument, mais vous savez, dans ces temps où les chasses sont très difficiles, on n'a plus beaucoup de choix.
Au fond, vous vous prenez un peu pour le Bethlehem de la BD.
Absolument, oui.
Vous riez parce que vous avez déjà entendu ça quelque part.
Bethlehem a fait un sort à Perrault. Je ne sais pas si je ferai un sort, si nous ferons un sort ce soir à Tintin et toute la semaine aux autres héros de la bande dessinée.
Et rassurez-nous tout de suite, Tintin, Spirou, Lucky Luke, etc. On peut quand même les mettre entre toutes les mains.
Ah, je ne sais pas. Nous le saurons vendredi soir, au bout d'une semaine.
Vous essayez de prendre une revanche en psychanalysant les héros de la BD ?
Je veux prendre une revanche, en tout cas, sur toutes les nuits blanches qui m'ont fait passer.
Moi, j'ai dû
jouer à Tintin. C'est pas toi qui achèterais un Tintin, par exemple ?
J'ai dû jouer à Tintin.
Personne ne achèterait un Tintin parce qu'ils les connaissent par cœur ou ils les ont tous. Donc, non, pas nous ! Mais ceux qui ont 3-4 ans, ça les intéresse, c'est normal.
En ce temps-là, commença la guerre des bulles. L'Amérique avait envahi le marché européen de ces petits Mickey, qui, comme on le sait, ont des oreilles noires et grandes. Il fallut réagir. Les Churchill du cartoon se levèrent partout. Ils levèrent la tête et décidèrent de sauver à la fois notre belle jeunesse et un secteur économique qui promettait d'être florissant, la bande dessinée. On était dans une période où les mœurs étaient belles et les critères moraux et culturels tombèrent à pic. Ils firent de merveilleux alibis pour empêcher ou gêner l'importation des mandrakes de tout poil. La bande dessinée franco-belge pouvait se développer en toute quiétude. D'un côté, la presse communiste produisit le magazine Vaillant. Dans le coin des lecteurs, on lisait « Merci au petit Alain Krivine de nous avoir envoyé 5 nouveaux abonnés. Et merci au gentil Alain Glucksmann pour sa charmante lettre. » De l'autre côté, une solide presse catholique, Bayard, réservée aux jeunes gens comme il faut, à ceux qui ne fréquentent pas le diable. Mais surtout, l'école dite belge, autour des magazines Tintin et Spirou. Et en arrière-plan, une loi, la loi de 1949, surveillait tout ce beau monde, et ce soir, plus particulièrement, Tintin.
C'est généralement quand on n'a pas beaucoup de choses à faire ou quand on s'embête qu'on trouve 2 ou 3 Tintins. Et qu'on est plutôt fémard, alors au lieu de se tenter vers des bouquins de littérature, on est plutôt tenté par Tintin.
Cette loi de 1949 se situe dans un grand mouvement de moralisation de l'après-guerre, où d'ailleurs une partie de l'extrême-gauche, en particulier communiste, se retrouve d'accord avec une partie de la droite classique catholique.
Pascal Horry.
Pour dire qu'il faut se protéger contre l'invasion extérieure et moraliser la jeunesse. C'est le grand moment où on peut dire que tous les morceaux de l'éventail politique européen sont partis à la conquête de la jeunesse. C'est le moment où le Parti communiste a des mouvements de jeunesse extrêmement actifs, beaucoup plus actifs qu'aujourd'hui, les socialistes aussi, les catholiques bien entendu, etc. Et la Belgique est tout à fait dans cette lignée, d'autant plus que commercialement, une bande belge d'expression française a besoin du marché français pour s'amortir largement. Et en tous les cas, il est assez logique qu'une bande d'expression française cherche la conquête du marché.
Wait a minute, don't you give a hang of what words you use at any time. Sing this silly language without any reason or rhyme. When you face the preacher, there's only one thing to say. Just a... Wait there.
Pour Tintin, comme n'importe quel personnage de bande dessinée, il y a plusieurs approches possibles, dont les principales sont peut-être une approche psychologique, éventuellement psychanalytique, et une approche sociologique. Les deux pouvant avoir une répartition très différente suivant les cas. Alors chez Tintin, au départ, c'est tout de même une opération plus que sociopolitique pratiquement, puisque tout le monde a souligné, peut-être même trop, que le début de la bande, c'était Tintin en URSS, Tintin au Congo, avec 2 affirmations, une anti-bolchevisme, l'autre défense du colonialisme belge à l'époque. Il faut rappeler que c'est tout de même ancien, et il faut rappeler tout de même que Hergé était impliqué dans un type de publication qui étaient propagandistes par nature et sans se cacher, puisque c'était des journaux catholiques. Bon, alors à partir de ça, il a développé tout de même un univers qui échappe largement à ses premières définitions, et sans ça, il n'aurait pas eu d'ailleurs le succès qu'il a eu. Et c'est un univers qui est doublement significatif, d'une part par des relations humaines. Alors bon, Tintin, espèce d'éternel adolescent, qui est pas vraiment un enfant, jamais vraiment un adulte, et qui maîtrise un univers d'adultes où la plupart sont des adversaires. Et il est appuyé par une espèce de petite tribu, et ça, je crois que le mot de tribu est important là-dedans, qui est formé d'abord par le petit chien, qui est une sorte de, bon, de projection, d'amitié fidèle, aussi ce petit côté... moqueur, enfin la farce, enfin etc., et qui replonge donc dans un univers enfantin et collectif, et puis toute une bande d'adultes protecteurs, plus ou moins comiques, parce que ce sont des gens qui, au premier abord, ont un aspect un petit peu négatif dans l'absurde. Haddock est constamment dans des rognes insensées, il se saoule la gueule, ce qui est une chose, je crois, assez importante et qui n'était pas pensable dans les tout premiers Tintins, parce que tout était trop réglé sur des normes très bourgeoises et très catholiques pour que ça puisse marcher comme ça. Et Tournesol, enfin, pour prendre deux exemples, il y en aurait d'autres, qui, lui, n'a que des ridicules et pas de vices. C'est ce qui est intéressant. Alors, la répartition des deux, par exemple, Tournesol du couple Tournesol à Doc, qui fonctionnent jamais en même temps, mais qui sont tous les deux en relation triangulaire avec Tintin, donne une espèce d'univers comme ça, de protection double et en même temps de protection réciproque. Parce que, comme ils font des bêtises, en général, Tournesol est ravi par des malfaiteurs parce que il est trop distrait, etc., c'est Tintin qui les sauve. Alors, il y a cette espèce de circularité qui fait que Tintin, protégé par des adultes du type protection familiale, comme ça, se donne toujours le luxe de les sauver quand ils sont en situation difficile.
Pour sauver un héros dans Tintin, on a souvent recours à l'invraisemblable. Quand il essaie de sauver des bandits, comme toujours, et il saute de 3 mètres et il s'étale sur le béton, bon, bah, il en sort indemne. Ou quand il tombe dans une crevasse, il en sort vivant. C'est un peu invraisemblable, ça aussi.
Une classe de 4e de l'école alsacienne.
Du béton, moi, je sais pas, mais je sortirais pas vivant.
Ou bien on fait une histoire vraisemblable dans une époque invraisemblable, ou bien on fait une histoire invraisemblable dans l'époque actuelle.
Ça, c'est à mon avis une interprétation descriptive, superficielle. Je crois qu'au-delà, il y a un phénomène qui est plutôt belge que français au départ, mais qui a peu à peu concerné la France, c'est qu'il existait, au bout du compte, une mythologie, une imagerie traditionnelle que je qualifierais de catholique, à tendance plus ou moins sociale, liée à des mouvements de jeunesse, au scoutisme, à l'Action catholique, au mouvement de jeunesse belge qui était très actif, qui le sont encore, mais qui était particulièrement actif pendant l'entre-deux-guerres et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui fournissait spontanément aux scénaristes, aussi bien qu'aux dessinateurs, un univers beaucoup plus proche d'ailleurs de l'univers du consommateur moyen de bande dessinée vers 1950 que l'univers de Tarzan Mandrake, qui était quand même l'univers d'adultes, je le répète, d'un melting pot. À partir du moment où la bulle était acceptée, à partir du moment où l'image de jeunes enfants actifs dans le monde, de jeunes adolescents entreprenants, etc., formés par le scoutisme, par la littérature scout écrite d'avant-guerre, pouvait leur être fournie, à partir du moment où le fantastique amené par les Américains dans la bande dessinée, qui jusqu'à présent était surtout une bande dessinée comique, pouvait être intégré, je crois qu'à ce moment-là, il n'était pas à la limite nécessaire de consommer au moins en permanence. On pouvait continuer à consommer d'une façon marginale, mais consommer en permanence des bandes américaines. Il ne faut pas oublier que Jacobs, par exemple, a commencé sa carrière en faisant du sous Flash Gordon. C'est-à-dire qu'on lui a dit, en 1942, bien, écoutez, nous ne recevons plus les bandes américaines, faites-nous du à la manière de Flash Gordon.
messieurs, on fait une bonne promenade.
Excellent, Nestor, excellent.
Nous avons rencontré une petite bohémienne qui s'était égarée dans les bois. Nous l'avons ramenée à ses parents. Leur tribu campe au-dessus de la décharge, vous savez...
Mais parfaitement, monsieur Tintin.
C'est d'ailleurs un endroit très malsain. Et j'ai invité ces pauvres gens, leurs chevaux et leurs singes savants, à camper dans le pré qui longe la rivière, derrière le château.
Mais monsieur, monsieur Romanichel,
ils seront mieux qu'au milieu des ordures.
Oh.
C'est aussi votre avis, n'est-ce pas, Nestor?
Mais monsieur... Mais certainement, monsieur.
Et voilà notre cher professeur.
Oh, Tryphon, rien de cassé.
L'époque où j'ai commencé à la bande dessinée, il y avait une bande dessinée.
Jacques Martin.
Il y avait un auteur qui était omniprésent, qu'on voyait partout, qui était absolument imbattable à tout point de vue, qui était présent partout. C'était Hergé. Alors, il était impossible à l'époque de gommer ou d'oublier cet auteur-là. Et d'ailleurs, quand on s'approchait d'un éditeur quelconque, la première chose qu'il vous demandait, c'était de faire du Tintin. Et il ne faut pas oublier qu'en 1946, au moment où je suis venu en Belgique, le succès du journal Tintin était absolument quelque chose de considérable, d'inouï, qu'on ne reverra, à mon avis, plus jamais. Et on nous demandait de faire, pas du Tintin, mais de faire du style Hergé, de faire du Tintin en succès d'année, si vous voulez, mais enfin, c'était ça.
La bande dessinée a ses mandarins, certains disciples sont prêts à le reconnaître, mais pas tous.
Bon, eh bien, je lui dirai deux mots moi-même.
Et bonne chance, monsieur. Ah, le whisky, c'est par là, monsieur.
Oui, ah bah, cette balade m'a donné une de ses soifs.
Hergé, je les ai lus, bien entendu, mais je n'ai jamais
Maurice.
Été fort sous l'influence de lui. Ce qui ne me plaisait pas dans Hergé, c'est que ça tient un peu le milieu entre le comique et le sérieux. Ce n'est ni chair ni poisson. Ce n'est ni tout à fait réaliste, ni tout à fait humoristique. C'est une solution intermédiaire qui me gênait un peu.
Tintin, indiscutablement, a dû inspirer à peu près tous les dessinateurs ou scénaristes.
Jean-Michel Charlier.
J'ai probablement tous ceux qui nous ont suivis, hein, indiscutablement. Les aventures de Tintin représentaient une telle somme de talent, d'invention, de cocasserie, et en même temps d'aventures extrêmement prenantes, que je crois qu'il faut mettre vraiment Tintin à part, parce que c'est vrai, j'en ai souvent parlé avec mes confrères et néanmoins amis, il est certain que ça les a tous inspirés.
Je t'ai attendu presque toute une année, et maintenant tu es là, si fragile encore que j'ai peur de bouger quand tu t'endors dans mes bras. Nous allons passer beaucoup de temps l'un près de l'autre à essayer de nous comprendre, de nous aimer, et bientôt tu verras.
À la demande de la 3e B2 du lycée Jules Grévy à Perpignan, Balade pour un sourire, Sylvie Vartan.
Et je sais déjà qu'après l'avoir cueilli, tu viendras me la donner. Tu connaîtras la pluie et le vent et les matins ensoleillés, les déceptions et l'amitié. Et puis un jour viendra où tu partiras sans me le demander, puisque la vie est ainsi. Je ne pourrai pas m'empêcher de pleurer comme tu le fais aujourd'hui.
Il veut toujours faire le bien, Tintin, parce qu'au début, le capitaine Haddock était un ivrogne qui buvait que du whisky. Il en boit toujours d'ailleurs, mais il a réussi quand même à en convaincre, etc. À convaincre de plus boire, etc. Mmh. Et il essaye de métamorphoser un peu tous les personnages qui sont autour de lui pour les rendre bien, quoi. Mm. Pour pas qu'il boive ou qu'ils aient des mauvaises habitudes, quoi.
Et il y arrive ?
Oui, plutôt dans l'ensemble, mais il y a toujours Arès, quoi. Enfin, les Dupont sont toujours aussi sont toujours pas attentifs parce qu'il leur arrive des choses incroyables. Enfin, justement, c'est ça l'histoire des Dupont, c'est que c'est les seuls à qui arrivent des accidents, etc. Enfin, le capitaine Haddock, en tout cas, c'est un ami. Les Dupont, c'est pas vraiment des amis, mais c'est des gens qui trouvent un peu farfelus, à mon avis. Parce que c'est vrai, d'ailleurs, ils sont assez farfelus. Et professeur Tournesol, c'est en même temps, il le trouve un peu bête parce qu'il est complètement sourd et il comprend rien à ce qu'il lui raconte. Mais en même temps, c'est un ami aussi. C'est assez, enfin, comme rapport, c'est assez difficile à dire parce que ils sont en même temps, ils les considèrent comme des amis, mais ça va pas jusqu'à être ami, quoi. Sauf le capitaine Haddock qui est un ami, je pense.
Et qu'est-ce que pense Tournesol de Tintin, par exemple?
À vrai dire, enfin, on ne sait pas tellement en lisant des Tintins, parce qu'il comprend jamais rien à ce que raconte Tintin, et on lui demande, il entend n'importe quel bruit, Tintin qui crie, ou la télévision très fort, il croit qu'il va y avoir un orage, ou quelque chose comme ça, mais on ne peut pas savoir exactement ce qu'il pense de Tintin.
Et où vit Tintin, maintenant, à ton avis?
Je crois qu'il vit à Moulinsart, avec le capitaine Haddock, dans le château. Dans l'ancien château des frères Loiseau. Et maintenant aussi, Tournesol vit avec lui. Puis il y a toujours les Dupont qui font leur entrée dans chaque bande dessinée.
Puis il y a un autre personnage qui rentre souvent dans chaque...
Oui, c'est Lampion. Ouais. Celui qui a... Enfin, le...
L'assureur,
oui. Il est très très drôle aussi comme personnage. Ouais. Très farfelu. Pas au même point que les Dupont, au même degré, mais c'est aussi assez bizarre.
Et la Castafiore?
Oui, ça aussi, j'aime bien le rossignol milanais.
Attention, Button!
Bianca, deuxième fois.
Partez!
Suis-moi, Milou. Oh, cette silhouette dans le parc. Mais on dirait le photographe. Oh, ça alors.
J'ai jamais aimé Tintin. Jamais. Je n'aimais pas les pantalons de golf, je n'aimais pas la houppette.
Richard Zren.
Je n'aimais pas ce garçonnet incertain qui faisait toujours appel aux autorités. Ça m'a toujours ennuyé. Puis un jour, je suis tombé et on m'a offert... le Tintin chez les soviets. Alors là, sentiment très mêlé. Quand je l'ai eu en main, je me suis dit quel horrible anticommuniste primaire. En plus, il fait des erreurs, parce qu'il fait jurer un personnage par Staline et Trotsky en même temps, alors qu'à l'époque, Trotsky était déjà viré de toutes les instances, sinon du pays. Et aujourd'hui, je me dis que peut-être qu'il était en avance, très très en avance. Ça m'amène à faire une réflexion bête, que j'aime pas. Distinguer entre une énonciation et un énoncé. L'énoncé, c'est la forme des propositions d'Hergé, une histoire simplifiée, un anticommunisme primaire, qui dit au fond, tous ces gens-là, c'est du pareil eux-mêmes, ce sont des oppresseurs. Et l'énonciation, c'est la rencontre de cet énoncé en train de se faire avec un temps. J'ai pas mieux pour le raconter. Quand il le dit, il me semble que c'est... C'est horriblement réactionnaire, c'est de l'anticommunisme primaire et c'est blessant. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, il avait raison. Mais là, je crois que l'erreur est là, c'est que c'est pas parce que l'énoncé est resté égal à lui-même ou identique à lui-même, si on peut dire, qu'il avait tort à l'époque et raison aujourd'hui, mais c'est bien l'inverse. L'énoncé n'existe qu'en fonction des circonstances, il avait tort à l'époque Et peut-être a-t-il raison aujourd'hui, et encore c'est pas sûr, parce que passé le moment de jubilation de brûler les vieilles idoles qu'on a aimées, c'est-à-dire pour ma génération c'est un certain marxisme des oppositionnels de gauche qui sont passés nécessairement par Trotsky et puis qui ont creusé un peu plus la mouvance de Kollontai, de Bloch, de Luxembourg, donc les marxistes de gauche, il faut quand même revenir sur cet aspect très épuré du dessin de Hergé, qui met en avant quand même à la fois les personnages, comme dans un tableau du 19e, avec des premiers plans et des seconds plans, des personnages principaux et des comparses, et puis le côté sommaire du jugement, parce qu'il n'est dit nulle part que les anciens propriétaires ou maîtres de la Russie étaient eux-mêmes des oppresseurs. Mais inversement, quand on dit que les trotsko-communaux-staliniens sont des truqueurs, puisqu'ils font frapper des gens dans des tambours pour faire croire au bruit d'activité de l'usine quand elle est visitée par des étrangers, on disculpe le peuple, comme si ça s'était passé sans lui. Or, en fait, je ne sais pas s'il faut dire en fait, ça ne s'est pas passé sans lui. Il a bien fallu que le peuple donne la main à cette dépossession du pouvoir qu'il a subi en même temps. Il est peut-être beaucoup plus de gauche, Hergé, qu'il ne le croit lui-même.
Transportons-le chez le maître. Ligotez-le proprement et laissez-nous, je vais lui parler. Où suis-je? Vous êtes ici, dans la cachette où Lénine, Trotsky et Staline ont amassé les trésors volés au peuple. Tout autour de ce repère s'étendent d'immenses steppes désertiques et presque infranchissables. Et si parfois un paysan entre dans la cabane hantée qui forme l'entrée de notre cachette, la peur lui ôte l'envie de pousser plus loin ses investigations. Quant à vous, qui avez violé ce secret, vous serez mis à mort. À demain, à l'aube. Ouf ! Impossible de briser ces cordes. L'évasion est-elle donc irréalisable ? Mais quel est ce bruit ? Coucou, me voilà. C'est ça, Milou. Coupe les liens qui me retiennent. Libre grâce à Milou, qui m'a creusé le chemin de l'extérieur. Allons, Tintin, pas tant de discours, on peut venir. Ah, bandit, tu te sauvais ?
A dit que c'était des histoires plus plausibles, mais je trouve qu'au contraire c'est complètement des histoires aberrantes, c'est ça qui est marrant. Oui. Je sais pas, quand Tintin voit un lion qui le tue avec son épingle à cheveux ou je sais pas quoi, je veux dire, c'est pas du tout plausible, mais c'est ça qui est très marrant, je trouve. C'est quand même des histoires, en plus c'est notre époque, c'est toujours des, je pense à, je sais pas, Lotus Bleu, vraiment, trucs comme ça.
C'est vraiment toujours les gentils et les méchants, quoi. Il y a pas beaucoup de différence, Tintin c'est le gentil.
C'est
vraiment
ça qui est marrant.
Bah non.
C'est quand même très bien fait, Tintin, après ce qu'on peut dire. Il y a eu plusieurs livres de Tintin. Ils ont tous été très intéressants pour quand on les découvrait. Parce que, bon, il n'y a pas d'abord un vocabulaire très intellectuel et très sobre. Et il n'y a pas non plus de l'argot. C'est bien.
J'ai toujours lu les bandes dessinées, même quand je ne le savais pas encore, parce qu'évidemment, on est toujours infiltré par des morceaux de savoir. J'ai toujours lu les bandes dessinées comme la reprise moderne, avec des guillemets, de l'épopée. L'épopée présente, raconte toujours la même histoire, la lutte des forces du bien contre celles du mal, qu'elle s'incarne dans des hommes, qu'elle s'incarne dans des dieux, avec des compositions bizarres. Il y a plusieurs groupes, il y a les rois, il y a les guerriers, il y a les bergers, ça prend d'autres noms selon les époques, mais on retrouve toujours cette forme dans les chansons que se racontent les gens au bistrot, dans les vieux contes que les nourrices étaient censées raconter aux enfants. Il y a ça, c'est comme une sorte de grande forme dans laquelle se coule un tas de productions qui, comme par hasard, sont des productions populaires, consommées populairement. Et ça me semble tout à fait intéressant. Alors, les dessins eux-mêmes, il ne faut pas parler en généralité, ils sont tous différents. Ils ont des traits communs, mais ils sont tous différents. Mais la forme dans laquelle ça se coule, il me semble que c'est l'épopée, donc il est nécessaire à ce genre qu'il y ait des héros, même s'ils sont des anti-héros. Il n'est pas sûr que les traits de l'anti-héros ne soient pas déjà inscrits dans le héros, qu'il n'y ait pas la volonté, quand c'est en représentation, que le héros soit un peu risible, qu'il fasse rire. De même que les hommes politiques suscitent toujours des imitateurs qui font rire, mais dans la neutralité, ou du moins dans la... Je sais pas, j'ai pas de mots. Dans l'innocence. On rit d'Henri Tiseau parce qu'on n'ose pas rire du général de Gaulle. Même pour quelqu'un comme Gottlieb, qui est, comme on dit, torturé, qui se pose des questions, il ne fait pas de discours savant sur la bande dessinée. Dans sa bande dessinée, même quand il l'a fait, il met des trucs qui obligent à faire des accommodations différentes avec l'œil, comme si on était obligé de regarder près et loin en même temps, ou à gauche, puis à droite, alors qu'on devrait... Si c'était vraiment de la lecture, on devrait en prendre connaissance d'un seul coup.
Chez Hergé, tout est toujours propre. Quand Tintin se balade dans une rue, il n'y a jamais un papier gras qui traîne par terre. Tout est propre, impeccable.
Jacques Tardy.
Jacob, ça aurait déjà tendance à être un petit peu plus réaliste, mais pas vraiment. Alors moi, j'ai pensé rajouter tout ce qui manquait, tout ce que je trouvais pas à l'époque dans ces bandes. Et aussi sur un truc qui me gênait, c'était le fait que Tintin n'est pas d'origine, on parlait jamais, on savait seulement qu'il était reporter, mais on le voyait jamais travailler, on l'a jamais vu dans la salle de rédaction d'un canard, on savait pas comment il gagnait sa vie, il avait pas de problème d'argent, il prenait l'avion, le bateau, sans problème. Et bon, moi après j'ai fait en sorte que les personnages aient justement des problèmes d'argent et tous des origines bien précises.
Et ça fait ou bien ou parfois même.
J'ai l'impression qu'il y a une profonde logique qui fait qu'au bout d'un certain temps, les dangers du héros naturel apparaissent même aux producteurs, parce que les producteurs existent quand même. Il n'est pas question de dire qu'il y a quelqu'un qui regardait par-dessus l'épaule de Hergé pendant qu'il dessinait, mais il n'empêche qu'il y avait une sorte de commande sociale. Ils ne dessinent pas comme ça dans la pure gratuité. Ils sont en rapport avec des rédacteurs en chef, avec des secrétaires des rédactions, avec des directeurs de journaux. Quand ils dessinent pour des suppléments illustrés de quotidiens, comme c'est le cas pour Hergé au départ, eh bien ce journal a une certaine tendance, un certain public. Il ne faut pas oublier que Hergé commence à dessiner pour le supplément illustré dominical d'un journal qui, par ailleurs, milite à l'extrême droite belge. Alors, il ne s'agit pas de dire que Hergé est rexiste, comme on l'a dit, c'est à la limite ridicule. Par contre, il s'agit de dire que cette commande sociale, ils ne peuvent pas ne pas en tenir compte.
Il y a deux lettres pour vous, monsieur Tintin.
Parfait, merci Nestor, mm-hmm. Merci.
Alors Tintin, de bonnes nouvelles ?
Il y a quand même de la belle bande dessinée, je veux dire, Tintin c'est vraiment primitif, point de vue dessin. Bilal c'est vachement bien, non, c'est rien du tout, c'est quoi, c'est une tête, un corps, c'est stupide. Hein.
Je crois que maintenant si personne ne lit plus Tintin, c'est peut-être parce que il y a très longtemps de ça et on les connaît, mais je trouve que si on rééditait Tintin sur de nouvelles histoires, eh ben, ce serait beaucoup plus acheté que d'autres bandes dessinées actuelles, parce que ça a été connu.
Le petit reporter s'en va.
Qui se mêle de tout.
Tintin, je sais pas quoi. Tintin, la magie.
Tintin et les oranges bleues.
Il n'y a que des couleurs pastel en plus dans Tintin.
Il y a en plus des décors assez... Il y a aussi des décors assez bons. Alors, on va en Amazonie, il y a des gros arbres avec des gros serpents dessus. Dans le désert, il n'y a que des cailloux. Je veux dire, c'est un peu. Ça va pas très très loin. Voilà.
Eh, c'est la lettre de Chang. Il est à Londres, tout va bien, et il vous adresse son souvenir.
Ah, quel charmant garçon.
Chez Hergé, il faut vraiment chercher pour trouver. Pour trouver quelque
Boris
chose qui
Zitman.
Ne s'inscrirait pas dans. Dans son calcul quasi mathématique. Parce qu'il a une sorte d'obsession de la propreté, de la netteté, des formes propres, des bonnes formes, de ce qu'il appelle l'harmonie, qu'il ne peut rien laisser au hasard. Que ce soit le modelé, que ce soit les lignes, que ce soit les valeurs, que ce soit les couleurs, encore une fois, qu'on prenne tous les éléments, il y a à chaque fois, un travail qui a probablement pour effet de gommer le monde sensible. C'est-à-dire que, et c'est ça, je crois, la grande caractéristique, on passe d'un univers de la représentation à un univers complètement sémiotique. Quand, par exemple, Reiser montre un personnage qui est en proie à une crise de rire aiguë, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque complètement des proportions anatomiques, il déconstruit complètement le visage, il ouvre la gueule jusqu'au sommet du crâne. Bon. Ça veut dire que le dessin transporte lui-même l'intensité de l'émotion du personnage. Qu'est-ce que fait Hergé par rapport à ça? Il va mettre des gouttelettes autour de la tête du personnage et le reste du visage est complètement soit neutre, soit codifié. Codifié d'une manière très élémentaire. Bon, ça veut dire que Hergé signifie « mon personnage est en proie à une émotion intense ». Et ce faisant, il désintensifie totalement le dessin. Même processus pour la vitesse. Alors, et là, on pourrait peut-être faire encore un court-circuit et faire une comparaison, non pas avec un autre dessinateur, mais à l'intérieur de l'œuvre d'Hergé. Et je pense à deux versions d'une case de Tintin en Amérique, où on a une voiture qui s'enfuit. Avec au volant un gangster. Alors, je vais simplifier parce que c'est une image qu'on pourrait analyser pendant des heures. En gros, dans la première version, qui doit remonter à peu près aux années 30, on a un travail... Bon, Hergé ne savait pas dessiner, dit-il. Et c'est merveilleux qu'il ne sache pas dessiner. Il n'aurait jamais dû apprendre à dessiner parce qu'on a un dessin complètement futuriste. Futuriste, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la transcription de la vitesse dans le dessin. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va constater? C'est une case et un bout, le bout arrière de la voiture, dans le sommet supérieur droit de la case. Donc, déjà, un objet qui est fragmenté. Et ça, par rapport, quand on regarde par la suite les bandes dessinées d'Hergé, c'est quelque chose de monstrueux, c'est quelque chose d'énorme. Il n'osera plus jamais faire ça, évidemment. On n'aura plus que des objets en entier, bien cadrés, bien centrés. Bon, mais c'est pas tout. Il y a un travail encore plus important, encore plus grave. C'est-à-dire que pour montrer les effets de la vitesse, il va déployer une pléiade de lignes qui iront dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a les 4/5 de la case qui sont consacrées à ces effets dynamiques. Ce sont des lignes actives, toujours pour parler comme clé. C'est-à-dire ce sont des lignes qui produisent un effet, qui ont un retentissement corporel immédiat. Et alors, chose plus admirable, ces lignes ont une telle importance dans la case qu'elles en viennent à rendre l'espace complètement indéterminé. C'est-à-dire que les frontières s'effacent. La frontière entre la route et le ciel se met à se diluer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera évidemment plus jamais chez Hergé. Donc, le passage de l'un à l'autre, c'est que dans la première version, on a l'effet de la vitesse qui est donné par le dessin lui-même. C'est un processus, disons, plastique, corporel, alors que dans la deuxième version, qui va être finalement la version définitive, malheureusement, d'Hergé, on a simplement une indication pratiquement intellectuelle, c'est-à-dire on a un élément, un signal. Hergé, à la limite, ça pourrait être la victoire du code de la route.
Nous écrit « Mon planeur est cassé, mon petit frère a marché dessus, que faire ? Abonne-toi pour 3 mois à Tintin au prix de 250 francs et tu recevras aussitôt un autre planeur Tintin et ainsi tu pourras participer à la grande épreuve du concours Tintin, 150 000 francs de prix. Et si tu es déjà abonné, tu n'y perdras rien car ton abonnement sera automatiquement prolongé de 3 mois. »
Und tun tun schon sabraten Betty.
Und wenn I must once more tell you the deed, then I will right away send you out from the house out. That's all. You hear? I don't have it. I don't have it. You don't school in the morning and you stay there all day. You break hard and you study hard. And you come home and you won't get it.
Oh, come on, Betty.
I say, what is this?
Non mais bah, je crois vraiment ce qui est le pire, c'est que vous prenez un Tintin, alors après si vous changez le titre que vont passer Congo par Amazonie, c'est vous pouvez laisser les dessins, les trucs, tous les textes, c'est vraiment à chaque fois la même chose. Je vois pas une grande différence. Alors il y a je sais qui est en train de mourir, alors il arrive, il le sauve, il repart, mais il y a Rakim le Rouge, je sais pas qui arrive sur sa route avec son tank blindé. Il veut le tuer et tout, et à la fin il s'en sort, je veux dire, c'est vraiment tout le temps pareil. Je vois pas. Non, il veut même pas le tuer, il veut s'en sortir, mais il ne tuera jamais Rakim le Rouge parce que il y a un bon petit garçon sensible qui veut pas faire de mal à personne. Ça me fait pas rien. Mais je trouve ça.
Un ami de Hénin Liétard nous écrit « Mon cher oncle Pierre, le capitaine Haddock est-il le papa de Tintin ? Allons, petit Jean-François, combien de fois faudra-t-il vous le répéter ? Tintin n'a pas de papa !»
Folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. she was the roughest of his frail. But Minnie had a heart as big as a whale. Ho de ho, de ho,
ho de ho, de ho.
Ah de ha, de ha,
ah de ha, de ha.
Hey de, hey de, hey de, hey.
Hey de, hey de, hey
de, hey. Ho de ho, de ho, de ho.
Ho de ho, de ho, de ho.
She messed around with a bloke named Smokey. She loved him, though he was cocky. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hey, hey, hey,
hey, hey, hey.
Oi, 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 oi.
Oi, oi,
oi, oi, oi. Ai, ai, ai,
ai,
ai.
Tout ça, c'est un savant mélange de subtilité contournée, donc de grande intelligence des choses, et puis de crétinerie. Je crois qu'il y a beaucoup de...
Baillon.
Comme chez Hergé, bon, mais je ne crois pas que ce soit forcément péjoratif. Je crois que Hergé est une espèce de génie, dans la mesure où il est aussi assez crétin. Je crois qu'il y a des choses... des choses géniales dans l'univers de Tintin qui n'auraient jamais été trouvées si elles avaient été formulées consciemment, c'est-à-dire si elles avaient été maîtrisées. Hergé, par exemple, parle d'analyse à certains moments. Il a été en analyse avec Jung, je crois.
Il a été disciple de Jung. Je ne crois pas qu'il les rencontrerait.
Ah bon ? Non, mais c'est ce que moi je ne sais pas. J'en parle, mais je crois qu'il a quelques.
Il se réfère sans arrêt à lui.
Il se réfère à l'analyse et en même temps, c'est assez. C'est assez bovin comme référence à l'analyse, c'est-à-dire c'est pas du tout, je crois que c'est pas du tout élaboré. En même temps, c'est ce qui fait la force d'Hergé, sans doute, c'est que il est pas impliqué là-dedans de manière très très complexe. Je crois que il y a l'analyse d'un côté qui représente peut-être un aspect très tarabiscoté de sa nature, et puis à côté il doit y avoir quelque chose de très simple qui lui a permis de cristalliser en lui tout un tas d'idées qui étaient en l'air et de devenir le génie, quand même, qui est là. Je veux dire, Tintin, c'est le Proust du... C'est le Proust du...
De la bande dessinée.
Oui, non, même, je veux dire, plus profondément, je crois que c'est pas seulement la bande dessinée, c'est que c'est peut-être la littérature la plus importante de ces 50 dernières années, dans la mesure où personne ne peut se vanter de ne pas avoir de près ou de loin été concerné par Tintin. Ça relève de la mythologie, c'est une mythologie moderne.
Dans ma rue, il y a deux boutiques. Dans l'une, on vend de l'eau, dans l'autre, on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde, en revanche, où l'on vend du lait, l'est. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant: à qui les voleurs des billets, à qui les lèles des billots, des billets si beaux, des billots si laids. S'il est un débit beau, c'est bien le beau des billets. Au débidot, il y a le beau bobby. Au débidelet, il y a la belle babé. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le bobby et la babé sont ennemis. Car les badauds sont emballés par les bidons de lait de babé. Mais on maudit le lent débit. Le long débit des longs bidons du débit d'autre Bobby. Aussi babé ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de Bobby. Et Bobby lui répond en vidant les bidons d'autre sang, les vies à les dents. Oh, les bidons d'autre sang, les vies à les dents. Les bidons d'autre sang, les vies à les dents.
Il y a une période bénie dans l'époque d'un dessinateur, c'est celle où il cherche son style et où il le trouve en même temps que le lecteur le découvre. Alors, c'est l'époque où on a de la fraîcheur.
Georges Volinsky.
C'est l'époque, c'est pour ça que vous aimez ces albums, c'est que Hergé découvrait le style. Et alors après, c'est l'époque où vous exploitez votre style, comme une mine de charbon. Et là, votre style, bon, ça devient un outil que vous avez bien en main. Mais vous perdez la fraîcheur, parce que vous utilisez des trouvailles. Je connais bien ça, c'est mon problème. Il peut tout se passer, vous pouvez jusqu'au à la fin de vos jours, une fois que vous avez trouvé un style qui a eu du succès, parce que le succès joue aussi, alors les gens vous en redemandent, et puis si vous changez de style, ça peut surprendre, et puis ne pas déplaire, vous pouvez avoir peur de déplaire, et puis vous pouvez aussi, parce que dans la création, c'est jamais régulier, c'est par bond, vous faites progresser par bond. Il y a brusquement une période où vous découvrez autre chose, peut-être 10 ans, 15 ans après, bon, ben vous êtes content, vous avez passé un autre stade, ou bien vous pouvez rester toute votre vie comme ça, et puis faire du ciné, du Saint-Pé, du Bellus, du Volinsky, tout ce que vous voulez.
Ah, celle-ci est signée Bianca Castafiore.
Ah, ce cher Rossignol.
Elle nous annonce son arrivée ici pour demain.
La Castafiore, ici, demain?
Ah oui, capitaine.
Oh, mille tonnerres, Nestor!
Oui, monsieur.
Faites mes bagages, il faut que je sois parti dans une heure.
Bien, monsieur.
À peu près trois types de réactions par rapport à Tintin. Quand j'en discutais avec des amis, avec des étudiants, avec n'importe qui. Il y avait et ce sont à chaque fois des réactions qui se fondent sur une analyse ou sur une évaluation du contenu. Des réactions militantes, politiques au sens traditionnel, c'est-à-dire Tintin c'est raciste, par exemple. Bon, il y a d'autres types d'accusations.
C'est sexiste.
Ça c'est le numéro 2, effectivement. Tintin, c'est sexiste. Et j'ai eu, je me souviens, il y a 12 ans, c'était en 68, à Nanterre, des discussions avec des féministes tout à fait extraordinaires. Bon, j'essayais de leur expliquer, comme j'essayais de l'expliquer là, en quoi c'est tout à fait non pertinent d'attaquer Tintin ou Hergé sur cette base. Et la troisième réaction, c'est Tintin, c'est très bien. Qu'est-ce que vous allez chercher de compliqué dans cette bande, c'est-à-dire à quoi ça sert de faire des analyses plus ou moins érudites, cuistres, on ne comprend pas très bien.
Que Tintin n'ait pas de parents au départ de son histoire, ça c'est très intéressant, parce que je crois que ça rejoint, à mon avis d'ailleurs, je crois que très profondément, c'est une des choses qui ont fait le grand succès de Tintin, c'est que Tintin est orphelin. Je crois que tous les enfants rêvent plus ou moins, ont tous ce fantasme d'être orphelin, parce que c'est d'être libre comme ça. Tintin n'a pas de parents, et bon, un beau jour il se trouve un père, mais c'est une espèce de...
Marjorie Alessandrine.
Violent, que lui-même rachète et... comment dire, lorsque Tintin rencontre le capitaine Haddock, c'est un personnage tout à fait comment dire, méprisable, rejeté, minable. Bon, c'est un pauvre ivrogne, c'est l'impuissant finalement. Et bon, Tintin, c'est lui qui va le relever finalement, le racheter, lui redonner son rôle social, lui redonner une dignité humaine finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se crée son père, il rachète son père. Bon, et puis bon, par la suite, les relations qu'il a avec lui seront évidemment pas des relations de père à enfant classique, dans la mesure où ça sera toujours, il y aura toujours cet aspect. Finalement, c'est Tintin qui est supérieur au capitaine Haddock. Bon, c'est une image paternelle complètement désamorcée et apprivoisée finalement. C'est ça, je crois.
Haddock, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est adéquat à une situation. Et non pas, je suppose, comme un poisson qui serait conservé de façon traditionnelle.
Parce que c'est pas Tintin qui s'est inventé, qui s'est fabriqué un père ad hoc.
Pourquoi une histoire de père? Alors, dans ce cas-là, on a le droit de faire n'importe quel type d'interprétation si on se donne comme règle que ce qu'on dit ne règle pas plus la réalité de ce qu'on voit qu'autre chose. Alors la Castafiore serait la maman, elle serait monstrueuse, et puis Haddock serait le papa, et Dupondé et Duponté seraient à une micro-différence de signifiant près les mêmes, tout en étant différents. Ce serait l'incertitude du sexe. Quant à Tintin...
Le double platonicien.
Mais absolument. On vogue gaiement entre la coupole...
Tournesol de grand-père.
Entre la coupole de... Non, pas entre la coupole, entre la closerie des Lilas de la cause freudienne et les salons feutrés de l'association psychanalytique anglaise. We'll be right back.
Le placier séraphin n'est plus que lampiste, lampadaire, lanterne, réduction à la classe infime, à l'objet, puis mise à mort, les séraphins à la lanterne. Voyez où mène l'assurance-vie. Le savant qui fut dans la lune devient le sportif au ballon dirigeable. Il est enfin tourne-dos. Elle ne veut pas le voir. Le maître d'hôtel, autrefois Nestor, nom de sage, est ravalé à Norbert, à Prosper. Le plus touché par la tornade est le vieux Lufia, l'hôte dont la maison est envahie, mordu par l'enfant de cigane et par le perroquet, mordu à la main, au doigt, au nez, piqué par une guêpe cachée dans une rose, frappé par un projecteur, cheville foulée, infirme, ses membres ne sont plus que des poupées. Il se défend tant bien que mal dans la lutte pour la nomination et la reconnaissance, l'ivrogne, en traitant la virago de Castafiole. Mais il est acculé à dire catastrophe. Elle est au sommet de la chaîne de communication. Il est blessé, rompu, brisé, tout au bas de l'escalier. Voici les morceaux. Bartok, elle est musicienne. Amok, Amor. Kolbach, obéissé. Karbok et Médoc, la bière et le vin. Karnak, pétrifié. Kodak, pas de journaliste. Mastok, épais, grossier, imbécile. Cornac, Balzac, Magog et Capstock. Gog et Magog, Captain Cac et Coq en stock. À la source, on aimait n'importe quoi. À la réception, tous ces frites. La langue en miettes défait l'homme. Michel Serres, les bijoux distraits où la cantatrice sauve, interférence.
C'est la famille, et on a l'impression que c'est des frères et des pères et des parents. On a vraiment l'impression qu'ils sont de la même famille, quoi. C'est un rapport un peu familial, quoi. C'est toute la famille qui habite dans le même château, etc. Puis Nestor aussi, hein, fait partie aussi de la famille, on a l'impression. C'est le domestique, mais il participe un peu à tout.
Et Milou ?
Ah, Milou, je trouve ça, enfin, c'est un peu, bien sûr, c'est une bande dessinée, alors on peut pas lui reprocher d'être trop irréaliste, mais en même temps, je trouve que Milou, il est un peu trop intelligent, je trouve. Parce que un chien, normalement, ça doit être, bon, bien sûr, ça doit toujours suivre, enfin, il suit toujours son maître, c'est normal, mais en même temps, c'est un peu trop, quoi, parce qu'il est toujours, il arrive à le sauver, il fait tomber un vase sur les gangsters, sur la tête des gangsters, etc., quand Tintin va se faire tuer, etc. Mais ce que j'aime pas tellement aussi dans Tintin, c'est qu'il y a toujours quelque chose pour sauver le héros, quelque chose qui peut être invraisemblable. C'est assez curieux, ça, d'ailleurs.
Ouais. Comment t'expliques ça?
Je sais pas, vraiment, je sais pas. Mais par exemple, quand on lui accroche les gangsters, ça se passe à Chicago, je sais plus lequel c'est.
En Amérique?
Oui, voilà. Et on essaie de le tuer, on lui accroche des haltères. Et on a confondu avec celle d'un forain qui faisait semblant de soulever des haltères en fer. En fait, c'était des haltères en bois. Et du coup, il flotte et il est récupéré par la marine nationale. Et ça, c'est un peu trop, quand même.
Je trouve que c'est un peu trop gros.
Ouais, ouais.
Mais il n'y a pas toujours. C'était plutôt dans les Tintins du début qu'il y a ces choses-là, non?
Oui, peut-être parce que Hergé avait moins d'idées au départ. Oui, c'est vrai, c'est plutôt au début, parce que maintenant, ça s'incarne plus dans la vie, notre vie d'ailleurs. C'est parce que Tintin, avant, c'était comme un peu un rêve, mais maintenant, je trouve que ça peut arriver à tout le monde, ce qui lui arrive, en quelque sorte.
Et on peut dire peut-être que tous les personnages qui sont autour de Tintin finissent par former une espèce de famille, mais de famille complètement, une famille rêvée, finalement, parce que, bon, une famille qui n'est pas oppressante, et une famille au sein de laquelle le jeune héros garde à la fois son indépendance, son individualité, sans aucune contrainte. Tintin est un peu inodore, incolore. C'est peut-être justement quelque chose de flou qui reste dans le personnage, de transparent, de, qui permet peut-être plus facilement l'identification aux gamins qui le lisent d'ailleurs. Il y a ce côté, oui c'est ça, c'est transparent, c'est un côté presque peut-être, je ne sais pas si on pourrait dire existentialiste du personnage de Tintin.
Mais ils sont ivres, oui. Les vapeurs du vin, sans doute, nous n'avons plus qu'à les cueillir. Ma bouteille, sacripant, trahison, vengeance, renégat, hérétique, esclavagiste, technocrate, flibustier, végétarien, pacte à quatre, pirate, corsaire, arlequin, hydrocarbure, zoulou, canac, gyroscope, vengeance, emplate, doryphore, noix de coco, zouave, cannibale, anthropopithèque, iconoclaste.
Bon, l'ordre de Tintin, c'est pas un ordre qui se caractérise par rapport à une appartenance politique, c'est l'ordre en soi. Il y a à chaque fois, on peut prendre n'importe quelle aventure de Tintin, il y a à chaque fois quelque chose qui vient faire effraction dans son monde, que ce soit le monde clos, c'est-à-dire de son entourage, c'est-à-dire l'enlèvement par exemple du professeur Tournesol, qui d'ailleurs par répercussion, à partir du moment où c'est un délit, constitue une transgression de la loi sociale. Donc, par ricochet, c'est une atteinte contre le monde privé, enfin, ou le monde, le petit monde de Tintin, mais c'est quelque chose qui, évidemment, s'inscrit dans le champ social. Par exemple, dans les sept boules de cristal, au début de l'album, on voit un lama et plusieurs lamas cracher la figure du capitaine Haddock. Bon. Alors, c'est une agression, c'est quelque chose qui, du point de vue donc, du petit groupe, peut être considéré comme négatif. Et il va falloir attendre la dernière image de l'album pour que cette phase négative soit compensée. Soit compensée, c'est-à-dire, alors on va prendre ça pour de l'humour, moi je ne considère pas du tout que ce soit de l'humour, on va voir le capitaine Haddock cracher à son tour à la gueule d'un lama, qui ne lui avait rien fait d'ailleurs. C'est lui qui paye pour les autres. Je considère ça comme étant parfaitement scandaleux.
Tintin au Tibet, il se trouve que machin a été est le seul survivant d'une collision d'avion et il rêve, dans un rêve, il se rend compte qu'il a marqué help ou je sais pas quoi pour le sauver. Alors il part immédiatement au Tibet. Je sais pas si au moment où il a été créé, ça existait ce genre de truc, mais bon.
C'est magique, presque.
Et puis, oui, son histoire de sous-marin à une personne dans le secret de la licorne, ou le trésor de Rackham Rouge, je crois que je sais pas lequel c'est. Je les confonds toujours.
Peut-être du futur.
Ça met en scène un univers qui est strictement un univers d'hommes, d'une part, et où se jouent des rapports strictement entre hommes, donc homosexuels. C'est-à-dire chez Tintin. Chez Tintin, c'est moins appuyé dans la mesure où Tintin est seul. Il est perdu dans l'univers et il a de temps en temps des rencontres avec des amis de passage et ce sont strictement des amis masculins et plus précisément des amis enfantins. C'est-à-dire que ce sont toujours des enfants et des enfants du sexe masculin, pédérastie.
Qui par exemple ?
Ben, y a Abdallah, c'est le petit arabe. Avec qui il a un des seuls rapports sexuels que Tintin ait jamais dans toute sa carrière, c'est-à-dire la fessée. Il donne la fessée à Abdallah. Il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a
Chang, évidemment. Chang, alors c'est peut-être le seul garçon, le seul être humain dans tout l'univers avec qui Tintin ait jamais un rapport sexuel, un rapport affectif. C'est le seul personnage qu'il arrive jamais à Tintin d'embrasser. C'est-à-dire que je crois que c'est dans les retrouvailles de Tintin au Tibet, Tintin embrasse Chang et c'est merveilleux, c'est un grand moment. C'est un grand moment de la vie amoureuse de Tintin. Je pense que un père a la plupart du temps un rapport amoureux avec son fils. Enfin, j'ai pas de fils, j'ai pas de rapport amoureux avec. Des fils symboliques ou réels, mais je pense que ça se joue toujours dans ces termes-là. C'est plus ou moins avoué, c'est plus ou moins assumé, mais quand un père aime son fils, il l'aime aussi amoureusement. C'est-à-dire, il l'aime parce qu'il l'aime en tant que corps, en tant que masse de sentiments, de chair, donc il l'aime comme Tintin peut aimer Chang. C'est vrai que c'est pas quand je dis sexuel, ça suppose plaisir, c'est-à-dire... plaisir affectif. C'est pas forcément... ça veut pas dire que Tintin met Chang et Nick Abdallah, ça veut dire simplement que les seuls rapports amoureux qu'ils soient capables de nouer avec le monde, ils passent par les enfants.
Parce que Tintin qui les protège, puisque c'est lui-même qui leur a créé leur généalogie, c'est lui qui a trouvé le château de Moulassar, qui est leur lieu, c'est lui qui a trouvé l'argent qui les finance, c'est-à-dire le trésor de Rackham le Rouge. Donc c'est presque lui qui s'est inventé une famille.
Oui, c'est vrai dans la mesure où Tintin finalement est un personnage à double fond, parce qu'en apparence c'est l'éternel adolescent, il vieillit pas d'une bande à l'autre, et en réalité il y a un autre Tintin qui est l'évolution même de tous les albums. Je veux dire que Tintin est rempli, et les lecteurs doivent bien le sentir, et sûrement qu'ils le sentent d'ailleurs, les lecteurs, y compris les lecteurs les plus enfantins, c'est que Tintin a la mémoire de toutes ses aventures passées. Donc en même temps, il est ce qu'il est représenté, mais en même temps, il est plus qu'un adulte. Il est un super adulte, il est un Superman déguisé, qui a un grand nombre d'expériences, qui a vaincu un grand nombre de méchants dans toutes les parties du monde. Et s'il maîtrise tout, c'est en même temps qu'il est capable, dans une certaine mesure, de créer les conditions de cette maîtrise, c'est-à-dire de créer les gens qui l'accompagnent, les gens qui le soutiennent, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, de leur fabriquer un lieu, En fait, c'est lui le père de sa famille, quoi, c'est d'une certaine manière. Bon, ça, c'est pas dans l'histoire. Dans l'histoire, quand même, ce qu'il a, disons, secrété comme personnage protecteur fonctionne aussi comme personnage protecteur. Alors, c'est lui qui règle tout, et c'est ça, finalement, le renversement d'une situation où l'adolescent est le maître des adultes. Seulement, il n'en reste pas moins que dans les projections d'un adolescent qui lit Tintin, la projection sur les adultes, c'est pour ça qu'ils sont ridicules, d'une certaine manière, c'est pour bloquer la projection, elle est quand même subdivisée, c'est-à-dire qu'en fait, Tintin est un personnage puissamment schizophrénique.
Depuis un moment, on dit que Tintin, c'est complètement irréel et tout, mais quand j'ai lu ça, moi, quand j'étais petit, j'ai trouvé ça réel, au contraire, et j'ai pensé que je pouvais avoir des aventures exactement identiques à ça. C'est un peu ça qui C'est un enfant qui est plutôt plus malin que les adultes. Moi, je trouve ça plutôt marrant, et j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose de réel.
Cette émission de Jean-Marc Terrasse, réalisée par Bernard Treton, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 décembre 1980. Thank you.